France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et nous sommes le jeudi 5 septembre. Bienvenue sur Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, l'ouverture de nouvelles négociations sur la réforme des retraites. Tout est remis à plat. Durée de cotisation, âge pivot, régimes spéciaux, pénibilité. Édouard Philippe en première ligne, Jean-Paul Delevoye à la manœuvre et Emmanuel Macron en observateur très attentif. On voit ça après les autres titres, Agnès.
Les heures sombres de Boris Johnson au Parlement britannique. Le Lionceau Dupont-Cheer, le fils du commandant Massoud, reprend le flambeau de la lutte contre les talibans. La situation désespérée des mères sans-abri à Paris. Ça passe pour Nadal, ça casse pour mon fils à l'US Open. Et puis le mythe du retour au vert déconstruit dans le nouveau roman de Julia Deck.
Les invités de France Inter ce matin, 7h50, Léa.
Après leur bon score aux européennes, quels sont les objectifs des Verts pour les municipales? Une alliance avec Cédric Villani est-elle envisageable à Paris? On pose la question à David Cormand, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts et député européen.
À tout à l'heure. 8h20, le grand entretien de la matinale avec la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
France Inter.
Sachant qu'Emmanuel Macron a promis de ne pas toucher à l'âge légal de départ à 62 ans, que la durée de cotisation pour un départ à taux plein est aujourd'hui de 41 ans et demi et qu'elle sera portée progressivement à 43 ans pour les salariés nés après 1973, qu'il existe actuellement 42 régimes spéciaux que le gouvernement souhaite fondre dans un système universel et que l'objectif est de maintenir le système des retraites à l'équilibre au-delà de 2025, comment faire? Sur le fond et sur la forme, les intentions du gouvernement restent floues. Édouard Philippe, entouré de Jean-Paul Delevoye et Agnès Buzyn, va recevoir aujourd'hui et demain l'ensemble des organisations syndicales qui espèrent rapidement des précisions. Laurent Kramer.
Le gouvernement a-t-il changé d'orientation sur la réforme des retraites? À la CFTC, Pascal Coton attend des clarifications aujourd'hui à Matignon sur l'esprit de la réforme.
Si tout à l'heure, quand on rencontre le Premier ministre, il nous dit « dans notre tête, ça a changé, on ne s'appuie plus entièrement sur le rapport de M. Delevoye », là, ça va changer la donne de la concertation. Tout à coup, on nous dit peut-être que on va parler d'annuité et en même temps en point. On va demander vraiment de la clarté et je pense qu'on n'est pas le seul partenaire à vouloir demander de la clarté.
En rebattant une nouvelle fois les cartes sur la réforme des retraites, le chef de l'État ouvre-t-il une nouvelle phase de concertation ou souhaite-t-il simplement décaler de quelques mois une réforme déjà ficelée, s'interroge à Force Ouvrière Philippe Pillet.
On a acquis la certitude qu'il y avait des pans complets du projet qui étaient déjà écrits. On analyse cette deuxième période de concertation pour enjamber des élections municipales. Il y a une confusion organisée ou pas, mais il y a une grande confusion. Si on cumule tous les dispositifs, on va vers un système qui va être carrément punitif. Donc on voit bien qu'il y a un loup, c'est une évidence.
À la CFDT, enfin, Laurent Berger salue l'ouverture d'une nouvelle discussion à condition de ne pas négocier de mesures d'âge punitives pour les salariés. La CGT, de son côté, estime que la réforme ne fera que des perdants.
Et ces rencontres avec les syndicats seront suivies d'une concertation directe avec les Français, menée elles aussi par le Premier ministre. Certains syndicats ont déjà appelé à des mobilisations le 21 septembre pour Force Ouvrière, le 24 pour la CGT. Très concret cette fois, le plan de lutte du gouvernement contre les décharges sauvages qui doit être présenté cet après-midi. L'idée est de rendre les déchetteries gratuites pour les professionnels et de multiplier leur nombre pour que les artisans n'aient pas à rouler plus de 30 minutes pour se débarrasser de leur gravats. Le détail de ce plan dans le journal de 8h. La politique encore avec la fin d'un faux suspense. Cédric Villani sera bien candidat à la mairie de Paris pour devenir, dit-il, le premier maire véritablement écologiste de Paris.
Il est 7h04, Agnès. Nouveau camouflet pour Boris Johnson, de plus en plus en difficulté au Parlement.
Privé de majorité, lâché par une partie des conservateurs, le Premier ministre voit ses plans s'effondrer les uns après les autres. Il ne pourra pas dissoudre le Parlement et convoquer des élections anticipées et va devoir négocier un nouveau report du Brexit avec Bruxelles. Antoine Gignot est à Londres pour France Inter.
C'est une triple défaite pour Boris Johnson. Il promettait de faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 octobre prochain. Quoi qu'il arrive, il ne pourra probablement pas mener son projet jusqu'au bout. Le texte voté hier soir et qui doit maintenant être validé par les Lords oblige le gouvernement britannique à demander un report du Brexit si aucun terrain d'entente n'est trouvé dans les semaines qui viennent avec les chefs d'État européens. Mais le Premier ministre a aussi perdu dans la bataille sa majorité et le soutien d'une vingtaine de députés conservateurs rebelles. Et sa tentative de dissoudre le Parlement en organisant des élections anticipées s'est soldée également par un échec. Les travaillistes et les libéraux démocrates le soupçonnent d'avoir voulu déclencher le scrutin pour se débarrasser des parlementaires et organiser en douce le Brexit. Jeremy Corbyn, le chef de file de la gauche, le compare à la méchante reine qui propose à Blanche-Neige une pomme empoisonnée. Fin de séance donc au milieu des moqueries pour Boris Johnson, dirigeant sans pouvoir d'un pays qui continue de faire partie de l'Union européenne. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Le coup de poker d'Emmanuel Macron à Biarritz fin août n'aura pas suffi. L'Iran annonce un nouveau revirement dans ses engagements nucléaires en faisant sauter toute limite à la recherche et au développement. Téhéran, qui dit avoir conclu à l'échec temporaire de la médiation française pour tenter de renouer le dialogue avec Washington, la Maison-Blanche ayant exclu toute dérogation aux sanctions économiques qui frappent l'Iran. Quand un fils reprend le combat de son père, cela se passe en Afghanistan. Le fils du commandant Massoud, celui que l'on surnommait le lion du Panchi, assassiné deux jours avant les attentats du 11 septembre 2001, son fils, donc Ahmad, lance aujourd'hui un mouvement politique, une alliance, Claude Guibal, anti-taliban.
Il y a cette même barbe fine et taillée. Il y a ce même pakol, le traditionnel couvre-chef afghan. Une ressemblance troublante qu'Ahmad, le fils du commandant Massoud, a clairement choisi de cultiver en sortant de l'ombre, en appelant aujourd'hui les Afghans à se rassembler derrière lui. Un changement lié à l'imminence de la conclusion des pourparlers de paix menés au Qatar entre les États-Unis et les talibans, des discussions auxquelles l'État afghan n'a jamais été invité à participer. Un processus qui, selon Ahmed Massoud, porte en lui les germes d'un nouveau chaos, comme il l'explique dans cette interview à l'agence France Presse.
Notre crainte, c'est que ça les légitime. Ça va donner de l'espoir aux groupes terroristes du monde entier en leur disant « Allez-y, continuez, et nous, plutôt que de vous détruire, on va vous reconnaître comme interlocuteur, on va vous donner le pouvoir et ça va leur permettre de mettre en œuvre leur idéologie extrémiste. On doit résister, on ne doit pas se résigner. »
Son souhait, continuer l'œuvre de son père, guérillero légendaire qui dirigeait la Ligue du Nord, une alliance de moudjahidines ayant combattu les soviétiques puis les talibans. Ahmed Massoud veut aujourd'hui incarner cette nouvelle coalition politique, dit-il, mais sans exclure de devoir un jour rebasculer dans la lutte armée.
Retour en France avec la situation des jeunes mamans sans abri à Paris. Il s'agit en majorité de migrantes qui n'ont aucun point de chute après leur accouchement. Le règlement intérieur de la PHP prévoit de protéger la mère et son enfant jusqu'à un mois après l'accouchement, mais à l'hôpital Lariboisière, la maternité n'a pas assez de place et les femmes dorment parfois par terre. Reportage signé Mathilde Dehimi.
Dans un coin de la salle d'attente, Kylian, deux semaines, se réveille dans son berceau. Kadi, sa mère, allait très tirée. On dort par terre, raconte-t-elle, montrant le sol et un drap. Dans une petite salle attenante, Awa saisit une bassine, derrière elle, un lavabo pour la toilette. De la fatigue, de la faim, elle se relaie pour trouver à manger, chercher du lait et des couches auprès d'une association loin d'ici et surtout appeler sans cesse le 115. Mais leur demande n'aboutit pas. Elles sont six à attendre une solution depuis une à trois semaines. Le règlement de l'hôpital Lariboisière assure leur protection pendant 30 jours. Elisabeth Geneste de la CGT alerte depuis des mois la direction sur cette situation.
L'administration estime qu'elle respecte le règlement intérieur de la PHP en mettant ces femmes à l'abri. On considère que ça n'est pas tout à fait le cas puisqu'elles n'ont comme lieu d'hébergement que quelques chaises et une petite pièce mise à disposition.
Les hôpitaux parisiens ont prêté cet été des locaux temporairement désaffectés pour ouvrir 45 places d'hébergement aux femmes sans abri et à leurs nouveau-nés. Anne Rubinstein, directrice de cabinet de la PHP.
On les garde le temps que les services de l'État trouvent une solution. Un hôpital, c'est fait pour soigner les gens, donc nous, on ne dispose pas de lieux équipés pour que des gens puissent y vivre. Donc c'est forcément dans des conditions dégradées.
Le nouveau centre d'hébergement, géré par l'association Aurore, est déjà saturé et doit fermer fin mars.
À l'hôpital Lariboisière, les lits manquent pour les mères sans-abri. C'est à lire aussi sur franceinter.fr. Vous pensez bien faire pour aider vos proches, mais le placement se révèle ruineux. L'association 60 millions de consommateurs dénonce les contrats d'assurance obsèques. Dans une étude publiée ce matin, 11 contrats passés au crible. Résultat, les cotisations dépassent largement la prime versée lors du décès. Il n'y a plus de Français à l'US Open. Gaël Monfils est passé à côté d'une belle occasion d'atteindre les demi-finales comme il l'avait fait en 2016. Le Parisien a pourtant battu bataillé jusqu'au bout face à l'Italien Matteo Berrettini. 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-6. Fabrice Abgral est à New York pour Inter.
Il avait rejeté avant le match l'étiquette de favori que tout le monde voulait lui coller. Mais Gaël Monfils savait mieux que personne qu'il avait tout à craindre de Matteo Berrettini, un gaillard d'1m96 pour 90 kg doté d'une force de frappe phénoménale. Monfils a été saoulé de coups durant 3h57 pour finalement perdre un match décousu et tomber dans l'irrationnel. À force de résister, Monfils a craqué face à la puissance de ce Romain de 23 ans. Gaël Monfils a sauvé 4 balles de match avant de s'incliner sur la 5e.
J'ai fait ce que je pouvais aujourd'hui. Je perds au tie-break du 5e. Faut jamais rougir en fait. J'ai donné le maximum. Matteo, il a fait un bon match, un match plein. Forcément, en confiance, a pris sa chance et on peut même pas dire des regrets. C'est simplement mal gérer les points importants, mieux que moi. Bravo à lui.
Mais pour l'ex-joueur français Nicolas Escudé, Gaël Monfils n'a pas eu la bonne attitude pour pouvoir l'emporter.
Gaël a besoin de se mettre quelque part dos au mur pour arriver à réagir. Il est plus dans la réaction que dans l'action. Et ça, malheureusement, à ce niveau-là, ça pardonne pas.
Matteo Berrettini est devenu le 4e Italien à atteindre les demi-finales en Grand Chelem. Et à l'issue du tournoi, il est assuré d'intégrer le top 15 mondial, alors qu'au début de la saison, il n'était que 54e.
Et Rafael Nadal, lui, n'a pas raté le coche, qualifié pour les demi-finales après sa victoire ce matin sur Diego Schwartzmann. Le coq Maurice va-t-il conserver sa liberté de chanter ou sera-t-il contraint à l'exil ? Jour J pour le gallinacé qui a fait la une des médias du monde entier. Ce coq chante tous les matins sur l'île d'Oléron, ce qui est insupportable pour ses voisins, des retraités qui aimeraient dormir en paix durant leurs vacances et qui ont donc porté l'affaire devant le tribunal de Rochefort. Quand le rêve d'une vie tranquille à la campagne tourne au cauchemar, c'est le sujet du livre de Julia Deck, Propriété privée, un roman caustique aux allures de thriller dans lequel donc un couple de Parisiens réalise son fantasme d'aller vivre dans un éco-quartier hors de la capitale et leur vie, Ilana Mor-Youssef, devient alors un enfer.
C'est un peu l'histoire du rat des villes qui voulait se transformer en rat des champs. Les Karadec vivent dans un confortable appartement parisien et en bons citadins de la classe moyenne. Ils rêvent de jardins, de compost, de panneaux solaires. Mais très vite, la vie dans leur nouvelle maison tourne au cauchemar. Julia Deck.
Oui, c'est l'enfer. Peut-être parce qu'ils sont pas du tout préparés à ce mode de vie. En fait, ils ont une idée complètement théorique de ce que c'est que la verdure, l'écologie, s'occuper de son jardin. En réalité, ils sont très éloignés de ce monde-là. Et puis, ils se retrouvent à vivre dans une maison. Ils n'ont jamais vécu dans une maison. Ils pensent accéder à une forme de tranquillité. Et puis, en fait, la maison est mitoyenne.
Le chat des voisins sera le premier symptôme du dérèglement de leur vie. J'ai pensé que ce serait une erreur de tuer le chat. En général, et en particulier, quand tu m'as parlé de ton projet pour son cadavre. C'est la narratrice qui s'adresse ainsi à son mari. Drôle de couple.
C'est un couple assez étrange, qui correspond pas au modèle du couple idéal, mais qui fonctionne. C'est-à-dire, ils ont une 50aine d'années, ils sont ensemble depuis qu'ils sont jeunes, visiblement. Et ils fonctionnent avec leur dysfonctionnement. Ça, c'est quelque chose que je voulais travailler, l'économie intime du couple.
Le ton est mordant, on rit beaucoup, nerveusement parfois. Et si les Karadec, c'était nous aussi.
Propriété privée de Julia Deck est publiée aux éditions de Minuit.
Merci Agnès Soubiran.